Toutes les armes que j'avais, je les fais sortir. Puis j'étais assis au salon, j'attendais. Oui, que peut-être ils allaient revenir en temps. Parce que j'avais dit à mon chauffeur d'aller déposer ses affaires au camp Dieu, au camp, au centre de la ville, là, et de revenir me chercher. Parce que comme j'avais eu vent de complot, je me disais qu'à 7h, il faut que je sois à la présidence pour demander aux gens de dire pourquoi ils complotent contre nous. Alors, juste un quart d'heure après, le chauffeur est venu me dire que le camp est encerclé, c'est-à-dire que le commando. Il y avait 50 commandos du pont qui étaient à Ouaga pour la sécurité de des gens. Donc ils envoyaient 10 par semaine à son domicile. Alors, les éléments de conspirateurs, sachant qu'ils ne peuvent pas arrêter Thomas, mais ces 50 ne vont pas accepter. Donc ils ont amené des chars en cercle tout le camp. Ils ont envoyé aussi, était là-bas, une antenne, avec son unité. Comme les hommes, même les connaissants, ils ne vont jamais accepter ça. C'est pas devant des militaires, ils ne vont jamais accepter ce rang. En tant que ça a traîné comme ça toute la journée. Et moi, pendant ce temps, dès qu'il est revenu, maintenant, je lui ai dit, bon, on va à Pau. Alors, on est sorti, on a pris la route de Waïvia. Ensuite,
on ne vous a pas embêté?
Non, les gendarmes n'étaient pas revenus. Après, moi qui sont revenus, quand j'ai quitté, ils sont revenus. Arrivés
de manière... C'était pas très bien organisé, ou bien ils avaient...
Non, c'était...
surestimé.
Ouais, c'était très mal organisé, ça, militairement, c'était zéro. C'est ainsi que moi, j'ai pu rejoindre les rails, traverser, prendre la route de Bobo, ensuite, piquer vers le sud, et puis rejoindre donc la route de l'eau, et puis c'est ainsi que je suis arrivé il y a 15h, fait 9h de route pour Ouaga, ce jour-là. Parce que j'ai rencontré deux fois des gendarmes à les carrefours, pendant les contrôles. Bon, arrivé, j'ai trouvé que les éléments, bon, comme ils avaient eu l'information comme quoi leurs camarades étaient encerclés, alors ils avaient déjà pris des camions pour monter à
Ouagadougou. Ils avaient bloqué.
Et eux-mêmes, ils se sont arrêtés sur la route. C'était le matin. Ils ont appris ça dès 5h du matin. Donc ils se sont arrêtés sur la route parce que ce se sont dit que s'ils le font pour libérer leurs camarades, ça, ils allaient pouvoir le faire. Mais le premier ministre qui était arrêté, ils allaient le liquider peut-être. Donc c'est pour ça qu'ils sont restés à la volonté à 30 km. Automatiquement, j'ai convoqué le monde et puis on a fait une assemblée générale pour voir la position adoptée. La position était d'exiger dans les 48 heures la libération complète du camarade pour qu'il rejoigne. C'était l'autre, la demande. Quoi. Pour nous, c'était ça ou rien. Quoi. Alors, on ne discute même plus d'autre chose.
Mais il y avait combien de, au-delà de comme le président et le commandant Lingani qui étaient emprisonnés?
Oui, Lingani aussi, voilà, j'ai oublié, oui, Lingani.
Et qui d'autre?
Les deux, les Zongo et mon adjoint, le lieutenant Guinguiré Gilbert, mon adjoint.
Il était là-bas, il était...
Voilà, il était, parce que le 17, dans la semaine, donc, à l'entraînement ici, on a eu un blessé, il y en a un qui a reçu une balle à la cuisse, et lui, il l'avait transporté à Ouagadougou.
Ah, il s'est trouvé là-bas par hasard?
Par hasard, donc le matin... Il s'est levé du mess des officiers pour aller. Les putschistes sont venus lui demander d'aller conseiller les commandos de réfléchir, quoi, de tout. Alors, donc lui, il est parti. Bon, il a pu rentrer le rejoindre. Et puis, lui aussi, il a pris une arme. Quoi. Ils ont décidé de ne pas se rendre, de lutter jusqu'au bout. Alors, c'est ainsi qu'avec les partisans de Zongo, ils ont organisé une résistance dans le camp. Jusqu'à 22h le soir. 22h, donc, ils sont tombés d'accord sur une plateforme minimale, à savoir la libération, donc, non, permettre au camarade président et Lingani de s'expliquer devant une assemblée, de ne pas arrêter, donc,
l'assemblée du CSP.
CSP, convoquer ça pour qu'il s'explique, ne pas arrêter Lingani, les choses Zongo et puis Guinguiré, qui était au camp là-bas, et puis un troisième, le capitaine Boukari. Commande les parachutistes à Kourou. Lui aussi, et le matin, il s'est levé, il est parti, on a convoqué les officiers pour leur expliquer pourquoi ils ont fait le coup et tout ça. Alors lui, il a écouté ça, il a dit non, ça marche pas, il est parti rejoindre les autres au camp. Donc, c'est lui qui commande les parachutistes. Donc c'était trois officiers avec une quarantaine de commandos. Donc c'est ainsi qu'ils ont...
Et Ouaga était pratiquement encerclé.
Ah oui, Ouaga était encerclé. Encerclé par...
Parce que vous disiez que le capitaine Boukari n'était pas d'accord.
Oui, oui, oui.
Donc il était prêt
à... Oui, oui, il a rejoint les commandos dans le camp. C'était un camp pour tirer.
Donc il y avait une résistance à Pau, à Kodougou.
Oui, non, à Kodougou, il n'était pas encore commandant des parachutes.
Ah, d'accord, actuellement.
Il est actuellement. Donc, finalement, c'est ainsi que... ils ont promis donc, que les camarades présidents et Lingani vont effectivement chaud et qu'ils n'ont qu'à laisser les armes, ils vont discuter.
Mais il n'y a pas eu d'assemblée?
C'était après le 23. Mais ils ne les ont pas fait venir. Ce n'est que vers le 30 qu'ils les ont libérés. Donc ils ne sont pas venus à l'Assemblée. Bon, ils ont fait des votes bidons là pour
cautionner le coup d'État.
Voilà, cautionner. Pour supprimer le premier ministère, il y avait 30 sur 120. Bon. Et puis le reste, abstention. Donc tous les votes, c'était abstention. Il y avait 80 abstentions comme ça. Alors ça a énervé Jean-Baptiste. Il s'est levé là-bas même pour. Il s'est énervé, il est sorti aller se mettre dans une salle et disait qu'il allait démissionner et tout. Et c'est là que l'ambassadeur de France est venu rentrer. Et puis il l'a appelé, ils ont discuté, il est rentré encore.
Il a dit ne démissionnez pas.
Voilà,
s'il
certainement,
vous plaît.
Oui, certainement, s'il vous plaît.
On compte sur vous.
On compte sur vous encore. Alors donc c'est ainsi que bon, nous ici, bon, on a eu effectivement la libération de nos camarades qui sont revenus. Et très vite, on a. Alors quand ils sont revenus, ça nous a fait du monde. On était à 250 maintenant. On a donc fermé tout, bouclé toute la ville, là, dans les 30 km de rayon. Là.
Vous aviez des chars?
Non, on n'a jamais eu de chars. C'était une histoire qui circulait à Ouaga, mais on n'a jamais eu de chars.
Vous avez de l'armement lourd quand même?
Oui, mais on ne les utilisait pas. Nous, on n'avait pas besoin d'armement lourd parce que, vous voyez, Pau, il n'y a pas beaucoup de passages pour venir ici. Il y a la Volta, la Grande Route. Que personne ne pouvait emprunter à l'époque parce qu'on avait tellement le niveau de la Volta et tout, on avait vraiment. Et puis lac le sud ici, sud-ouest. Mais donc de ce côté aussi, c'était vraiment. Donc pour nous, ça, le combat, bon, c'était pas. On n'a pas besoin d'armement lourd, surtout avec la région.
On peut bloquer facilement les accès.
On peut bloquer facilement les accès. Et puis un ennemi qui se regarderait dans la zone, dans la région ici, dans un rayon de 100 km. nous connaissons avec les manœuvres, nous connaissons pratiquement toute la zone, donc ce serait dangereux pour nous. Après ça, obtenu la libération des camarades.
Entre-temps, il y a eu le voyage de Zongo.
Oui, effectivement, quelques jours après, il était venu. Il m'a manqué d'abord parce que moi, j'étais au Ghana pour voir les autorités là-bas, pour leur parler de la situation à Haute-Porto et tout ça. Bon, ils m'ont dit, les commissaires du Nord m'ont dit donc que eux, l'ambassadeur de Accra a déjà expliqué que c'était un truc là intérieur, ça n'a rien à voir. Et moi j'ai donc donné l'information contraire qu'en fait c'était la contre-révolution et la révolution. La lutte que le Ghana se détermine dans la mesure où déjà avec la Côte d'Ivoire et le Togo, si au nord il y a encore, je dis c'est fini aussi pour votre révolution, il faut faire l'informer. Donc mon camarade Rollins.
Il a compris.
Oui, il a compris.
Il connaissait déjà le Cameroun de Dakar ?
Non.
C'est après seulement.
C'est après. Après sa libération.
Donc vous avez été convaincant dans vos arguments, sans que vous connaissiez auparavant.
Oui, parce qu'après moi-même, j'ai fait un saut à Accra. On l'a rencontré, on a discuté toute la journée sur la situation. Donc, ce n'est qu'après que, quand Thomas a quitté la prison, nous avons pu le faire arriver jusqu'à pour discuter avec Collins aussi.
Donc il y a eu quand même 2 mois de tension.
Oui, il y a eu 2 mois de tension, mais finalement nous savons que nous avons le peuple qui est vraiment, parce que dès que les 20, 21, 22, il y a eu les manifestations des élèves. Depuis d'ailleurs cette arrestation, jusqu'en octobre, il n'y a plus eu de classe. On était obligé de fermer les établissements, parce que les élèves sont sortis avec des pancartes, libérés Sankara, Jean Bâtard au poteau.
Jean Bâtard.
Oui, au poteau. Et ils sont passés à l'ambassade de France, cassés des voitures, continuant. Ah ouais, c'était difficile. Donc après ça, le peuple aussi, c'était...
Vous avez été quand même patient, parce que vous n'avez pas eu envie de...
Non. Moi, parce que j'avais trop de soucis. Il y avait la sécurité des
personnes.
Et aussi, je ne voulais pas que d'intervention étrangère. Parce que je sais que si ça reste entre nous, nous sommes capables de régler leurs comptes. Mais si, par exemple, il y a l'ANAD ou bien des forces... Alors, c'était ça notre problème. Donc, on a tout fait pour minimiser, même quand ils venaient ici, tout qu'on était, on s'amusait. On n'a jamais montré qu'on... On était ferme sur une seconde, mais on n'a jamais vraiment créé cette situation.
Au sein du Conseil de l'Entente, il y a un accord de...
L'ANAD.
C'est ça.
C'est à eux-mêmes.
Mais on n'a jamais fait appel.
Non.
À votre commission.
Oui, mais nous savons qu'ils ont eu des contacts avec le secrétariat de cet organisme.
En cas de besoin.
Oui, puisque après le 4 août, il y a l'ANAD envoyé du matériel militaire pour eux qui est venu nous trouver. Donc c'est venu en retard là.
Ah bon?
Ouais, nous on a pris.
Merci.
On a dit merci. Ouais, donc c'est ça. Et même le 20 mai, la France a envoyé 600 armes automatiques. Le 20 mai, 3 jours. Donc ils avaient eu des. Mais il leur manquait les hommes.
Mais comment ils pensaient s'en tirer eux?
Non, je crois qu'ils ont fait ça comme ça. Ils n'ont rien compris à l'histoire.
c'est ça.
Ouais, parce qu'ils croyaient que le CSP, parce que le CSP, c'est quand même nous qui faisions la force. Les gens commençaient à vous, parce qu'ils sentaient en nous. En fait, on a été adopté très vite par le peuple voltaïque. Après, donc, c'est que les gens oubliaient. Donc, ils pensaient qu'en nous mettant de côté, ça suffisait pour eux. Bon, c'est là qu'ils ont vu comment le peuple. Imaginez-vous une ville comme Ouagadougou. Et après le 17 mai, le 22, il organise, le président de la République organise une marche pour lui, avec radio, tout ça. Il n'a pas 200 personnes, alors qu'il a attrapé les autres enfermés. C'est dire que la situation vraiment...
n'était pas de son côté.
Le peuple avait choisi son camp.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'avait aucune stratégie. Il n'a mis sur le pied aucune stratégie après, parce que quand il a vu que...
C'est parce que en fait, c'est le colonel Soumé qui a fait son coup. Il a même obligé à accepter le fait accompli. Et maintenant, or, ce n'est pas un politique Soumé, c'est un fasciste primaire là, qui donc ne pouvait rien organiser, c'est ça. C'est pour ça que l'ambassadeur de France était chaque fois avec Jean-Baptiste pour essayer de l'aider.
Ils ont changé d'ambassadeur depuis ?
Oui, d'ailleurs, on a trouvé qu'il était d'ailleurs en France, il était parti le 3 août.
Coup de chance pour lui.
Oui, ouais, de le garder là-bas. Ils nous ont dit, bon, comme il y a les protocoles, les machines, donc, certaine manière là. On va le laisser revenir, rendre
prendre ses bagages.
Prendre le bagage officiellement. Mais c'était dur. Enfin, je sais qu'après, c'était dur pour lui quand il était là. Parce que j'ai insisté même quand Nucci arrivait. Il est rentré.
Bon, Kenki Nucci.
Il est rentré pour voir le présenter au président. Bon, il a salué le président, il n'a même pas salué. Il a salué. Ah ouais, c'était vraiment. Ah ouais. Ah ouais, parce que puisque toutes les réunions qu'il faisait nuitamment, nous étions informés. C'est ça aussi. Parce que nous étions très bien informés de la situation. Voilà, tout ça, c'était...
Donc il suivait personnellement.
Ah oui, il suivait personnellement. Il suivait personnellement. Ça, c'était... Lui et puis le cardinal.
Et maintenant, c'est que Guy Pen était au courant de tout ce qui s'est passé. Ou il a été pris de surprise.
Je ne sais pas, mais nous pensons que puisqu'il arrive le 16, il se fait pas, il se va loger à l'ambassade, chez l'ambassadeur. Il dit à la télévision, de la radio de ne pas être là. Bon. Alors, tout ça. Et puis les gens nous disaient après même que, puisque le 17, il a organisé une réception. C'est des bruits que nous avons entendus. Il a dit aux gens que Voltaire devait être content, c'est une journée historique pour vous. Bon, alors tout ça nous est parvenu, on s'est dit qu'il y était pour quelque chose. Du moins, il était informé de ce qui allait se passer.
Et après, il y a le 4 août. Le 4 août.
4 août, c'est loin ça. Le 4 août, ben,
Kabou, chevauché lui, sur les goudrons.
Lui, il était là, il a tout suivi. En fait, le 4 août n'était pas... Parce que, bon, les gens pensent que nous avons fait le 4 août, par exemple, pour sauver nos têtes. Mais, en fait, le pouvoir ne pouvait plus aller à droite. Même le parlait de colonel CNRPN et autres, ils prenaient le pouvoir à Ouaka. Oui, ils allaient... C'était impossible de gouverner, en fait. Ils n'allaient pas trouver, nous restons à Pau, on leur dirait, ils n'allaient pas trouver de militaires pour nous affronter. Dans toute leur bataille, il n'était plus possible, parce que nous avions gagné les garnisons, des militaires venaient ici, avec des motos qui tendent les garnisons pour venir nous informer de ce qui est passé chez eux, et qui n'étaient pas du tout prêts à attaquer Pau. Donc, quel que soit le pouvoir de droite qui venait, qui se mettait en place par la force,
un gouvernement,
ils ne pouvaient pas gouverner leur bataille, c'était... Il n'y avait pas dans toute la querelle de colonel, on n'envoie pas quelqu'un qui pouvait. Parce qu'ils ont traîné leur boss dans la politique, en les gens les connaissaient assez. Donc pour nous, le 4 août, en fait, sur le plan militaire, ça nous a pas. C'était pas une action héroïque en soi, spectaculaire, parce que nous savions qu'Awara, sincèrement, il n'y aurait pas eu de combat. Nous le sentions parce que les militaires même avaient choisi leur camp.
Il n'y a eu aucune résistance.
Un peu à la présidence, à la résidence de Jean-Baptiste, c'est là où il y a eu deux morts, il y a eu trois morts même là-bas. Ouais. Et puis au blindé chez les. Où il y avait les chars. En dehors de ces deux points.
C'était presque symbolique, quoi. Mais...
Oui, c'était symbolique en fait, c'est ça. C'est-à-dire que la situation était telle que c'était la gauche ou rien. Il n'y avait pas de. Non, là, parce que on ne voyait pas comment ça pouvait se terminer.
Et vous sentiez que les civils étaient mobilisés?
Ah oui, ça, nous le sentions, puisque la haute volta, après le 10, après en juillet, quand vous arriviez à Ouagadougou, vous sentez, les gens, c'était vraiment là, en juillet, au mois de juillet 83, c'était une résistance, une désobéissance civile, comme ça, les gens, on prenait les gens, ils faisaient une semaine, n'allaient pas au bureau, c'était vraiment pas leur problème, hein, le gouvernement de Jean-Baptiste, alors qu'ils promettaient encore de faire revenir les vieux chevaux là, alors c'était, pour les gens, c'était, ils en avaient marre. Les gens ne se sentaient plus. Donc, c'est dire que... Et la preuve, c'est que le 4 août, dans la nuit, il fallait faire rentrer les gens dans leur... Parce que pendant que ça tirait, les gens criaient « Vive la révolution !» Ils venaient avec leur mobilisateur à côté de vous. « Vive la révolution !» Ah oui, c'était ça. Et le 5 au matin, généralement, nous connaissons la haute volta, quand il y a coup d'État.
Le matin,
les gens... Ah oui, ils attendent de voir si réellement... Il y a un camp qui a gagné avant de... Mais le 5 au matin, tu étais là. Tu as vu toute la population est sortie, commencer de la place de la révolution jusqu'à la présidence. Alors que... C'était vraiment les jours qui suivaient, mais je ne sais pas, on a rarement mobilisé. Je sais depuis l'indépendance, on n'a jamais vu des manifestations comme ça. Non, c'était immense comme...
C'était la première fois qu'il y avait un contact aussi direct entre la population et les militaires.
Oui, c'est ça. En dehors, on a eu des contacts comme ça avec les éléments qui venaient bénévolement nous informer.
Pas de façon spontanée.
Spontanée, oui. Comme ça, nous informer de la situation. Puis les contacts que nous avons gardés avec
les disons individuels, alors que les gens dans les rues, c'est
l'anonymat. Ah ouais, dans la rue, c'est aussi comme ça. Mais on a gardé des contacts. Mais on n'avait jamais beaucoup de contacts. Et pratiquement, on ne dormait même pas là. À toutes, à 2 heures, les gens viennent nous voir pour nous dire, ah, maintenant, là. Comme ça, on ne les connaît même pas. Et puis, ils venaient et demandaient à s'engager dans l'armée. On était obligé de faire un camp d'entraînement. Et puis, les mettre là-bas. Ils étaient là-bas, les civils.
Ils vous ont été utiles?
Ils nous ont en tout cas aidés.
Moralement.
Après, comme il y a eu la réconciliation le 16 juin, on les avait libérés. Avant le 4 août, ils sont revenus.
C'était quand même encourageant pour vous de sentir la solidarité aussi.
Oui, ça, il y avait cette solidarité. En fait, c'est le peuple qui nous a aidés. Parce qu'il faut avouer que nous-mêmes, dans un premier temps, ce qui nous intéressait, c'était de revendiquer la liberté pour nos camarades, en fait, l'application des dispositions du statut de CSK.
La légalité,
Voilà. Bon, après, nous avons senti qu'en fait, ce que le peuple demandait, c'était même pas la liberté de Sankara, mais c'était même Sankara à la tête de la... Voilà, c'était ça. Et c'est ce qui nous a poussé, nous aussi, à voir plus loin. Je crois que c'est ça. Nous avons senti que le peuple avait des aspirations certaines quant au choix politique qu'il fallait faire. Nous avons été entraînés pratiquement par le peuple dans toute cette situation.
Et c'est par la population que vous étiez informé régulièrement de ce qui se passait?
Oui, à la Guadeloupe.
Et les militants de partis de gauche, tout ça?
Oui, avec eux aussi nous avons gardé des contacts. C'est essentiellement par leur canal aussi que nous avons des informations les plus régulières. Quoi.
Oui.
Indépendamment de ça, je dis qu'il y a beaucoup de patriotes qui venaient ici à toute heure pour dire tel mouvement de l'unité ou telle autre chose de Jean-Baptiste, etc. Et pratiquement les correspondances, par exemple, de Sommet et Jean-Baptiste, nous les recevions ici, donc on était vraiment. Les gens étaient très bien organisés en ce sens.
Et puis il y a eu la création du CNR.
Yes, c'est.
Le CNR, disons la consolidation de l'alliance, si on peut dire,
voilà,
entre les militaires et les.
Du CNR, la création des CDR. Pour faire la révolution, pour une élection, il faut des instruments pour défendre la révolution. Donc, ça nous a paru primordial.
Et vous sentez la nécessité de l'unification de toutes ces forces et de ces structures communes? Tout ce qui adhère au CNR?
Ce serait difficile, mais nous pensons nous pensons qu'il y a quand même quelque chose de fondamental. C'est que tant que la révolution est monopolisée par des groupuscules, enfin des groupes politiques, par exemple à un moment donné, avant le 4 août, on ne parlait que de révolution dans certains groupes de gauche qui parfois même n'avaient pas de grande. Mais maintenant que le mouvement s'est popularisé, que la révolution est partout, l'éducation, voilà, effectivement, il y aura le problème, c'est-à-dire que l'union va se faire. Même si même sans certains. Ça, ce n'est pas. C'est le peuple qui va faire, parce que le peuple a envie d'aller de l'avant dans la révolution. Moi, je suis. Pour ça, je suis optimiste. Je ne pense pas qu'il y ait un obstacle. Je fais confiance au peuple. Et je crois qu'il est là aussi. Déterminant dans tout ça.
Quel bilan vous faites de ces 10 mois des pouvoirs révolutionnaires?
Ça nous a permis surtout de voir les problèmes, que la résolution des problèmes, pratiquement, c'est quand même quelque chose de difficile, compte tenu de toutes les contingences, compte tenu aussi de la nature même néocoloniale d'un pays. C'est un système qui vraiment vous lie pratiquement les mains. Vous voyez ce que vous voulez faire. Vous devez aller avec beaucoup de réalisme. Les gens peuvent penser que c'est parce que vous ne pouvez pas avancer. Alors vous ne voulez pas avancer. Alors il y a tous ces problèmes-là. Mais nous sommes
confiants. Vous ne sentiez pas avant les poids contraignants des structuralités. Vous l'avez perçu?
Oui, justement,
après.
C'est ce que je veux dire, quoi. Ces trucs du passé, là, toutes ces structures héritées du passé, nous sentons surtout la difficulté dans le changement de mentalité. Parce que, vous voyez, nous sommes une révolution qui n'est pas d'abord. Les gens n'ont pas fait de guerre, de libération, où ouais, paysans, ouvriers, intellectuels, on s'est côtoyés dans les maquis et tout. Et on accepte après, quand l'instauration de la révolution, de certains sacrifices. Actuellement, les gens, même, on voit l'euphorie des premiers moments et maintenant. La révolution se décante, se purifie, parce que, effectivement, le sacrifice là, pour réaliser la révolution n'est pas dans tous les cœurs. C'est très difficile. Et bien sûr, problème de l'éducation de tout un peuple, cela aussi se pose dans la mesure aussi où nous n'avons pas. Ce n'est pas un parti révolutionnaire, par exemple, un parti communiste, etc., ou un révolutionnaire qui aurait pris la direction, le pouvoir, avec ces cadres qui viennent déjà de recouvrir tout le pays pour faire passer les mots d'ordre de façon spontanée. Alors, actuellement, ce problème se pose aussi au niveau de l'éducation de ces millions de personnes-là, sans des structures d'encadrement bien structurées, là, c'est un problème pour nous.
Ce qui nous paraît presque paradoxal, c'est que, bien que vous soyez un peu, disons, vous avez vécu l'histoire d'une armée néocoloniale, vous semblez presque plus conscient de la réalité nationale que les partis civils eux-mêmes. On a l'impression que vous aviez des attaches, une connaissance. Non,
je crois que. Mais quand même, c'est que nous, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on travaille politiquement, même si c'est pas.
Si eux, ils ne le savent pas.
Mais voilà, je crois que c'est ça aussi. Et nous n'avons jamais cessé d'aborder les questions de la vie pratique du peuple voltaïque, hein, de façon. Tout cela, ouais, ça nous a permis de nous cultiver. Même si. On a été beaucoup entravé par les tâches parce que quand on avait beaucoup de moi, je m'occupais des parachutistes et l'autre, j'étais dans les parachutistes. Comme le président dans les commandos, c'est toujours des unités où le boulot militaire.
Ne manquez pas, oui.
Ah, donc, ça nous a.
Mais disons que. Preuve de réalisme.
Ah oui.
Dans ce sens.
Oui, même parce que nous avons suivi avec attention les luttes populaires en Haute-Volta. Nous avons vu ce que le peuple réclamait à chaque fois. Chaque pouvoir. Alors, c'est ça. Je crois que c'est l'analyse concrète que nous avons pu faire des situations concrètes. Comme.
Et la transformation de cette armée néocoloniale,
oui.
Elle s'est faite rapidement d'après vous ou il y a encore de grands obstacles?
Oh, nous pensons qu'elle va se faire avec. Il y a beaucoup de difficultés parce que. Vraiment, c'est du jour au lendemain, effectivement, 23 années de. On a mis dans la tête, vous voyez, le cadre de. Aujourd'hui, vouloir tout changer, c'est très difficile. Mais avec les dégagements, la montée d'officiers, quand même plus. Même s'ils ne sont pas des révolutionnaires convaincus, leur amour pour le pays, leur loyauté, ça nous permet de travailler avec eux de façon régulière. Nous pensons que c'est un peu ça. Nous essayons. Façon d'organiser ça autour de principes clairs, à savoir, comme dans tout régime, que la direction politique puisse diriger l'armée, que ce ne soit pas l'idéologie du révolutionnaire qui pénètre l'armée, qu'il y ait le travail, donc, comme je le disais, entre le peuple, l'intégration armée-peuple, armée et puis peuple.
Concrètement, comment elle peut se faire, cette intégration?
Concrètement, il y a le travail politique que nous faisons, mais il y a surtout les tâches pratiques. D'ailleurs, je disais ce matin au délégué CDR, lorsque nous disons de faire des champs, de faire de l'élevage, de faire des petits métiers dans les camps, c'est parce que nous savons que même si on leur fait. On met dans leur tête là, toute l'idéologie, la théorie révolutionnaire, tant que, concrètement, ils ne font pas les tâches pratiques, les tâches du paysan moyen, les tâches de l'éleveur moyen, ils ne peuvent pas se sentir appartenir à cette classe laborieuse là, pour mieux la défendre. Et c'est pour cela, parce que quand le militaire fera tout ce que le paysan fait, tout ce que l'éleveur va dire, il se sentira beaucoup plus lié à cette classe-là, même s'il n'y a pas un travail politique en français. Nous mettons l'accent justement sur cette tâche.
Mais concrètement, ces travaux doivent servir, disons, à l'autonomie de la de l'armée.
Oui, c'est pour des années, choses. Même maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le contenu idéologique.
Le pédagogique.
Là. Voilà, le contenu idéologique de cet aspect de travail là, qui nous intéresse. Savoir que ça va permettre à ces militaires-là de se sentir plus proches, de mieux leur solidarité.
Effacer leur sentiment de privilège.
Voilà, de privilège des gens qui n'ont pas... Ils trouvent que ces paysans, ces éleveurs, c'est des gens un peu embottés.
L'armée est entièrement alphabétisée ?
Entièrement ?
Alphabétisée, comme on dit.
Non, ça c'est un problème aussi. Et les CDR ont pratiquement inscrit ça aussi dans leur programme d'activité.
Mais c'est un pourcentage pas très élevé ? L'impression qu'on a, c'est que c'est une armée déjà dans...
Ouais, mais les militaires, ils parlent le français un peu. Un peu, hein, parce que nous on donne les cours en français, ils sont obligés de suivre. Ils suivent. Avec pas beaucoup de grammaire, et puis et ça va quand même.
Comment vous concevez la relation entre les CDR paramilitaires et l'armée régulière ?
Les CDR paramilitaires, ce sont les milices,
hein ? Oui.
Ah, les milices. Non, nous disons que, en fait, nous formons. Parce que nous avons des tâches. Par exemple, ici, quand dans nos programmes de choses. S'il y a des problèmes dans la région, par exemple, si nous avons une défense assurée dans la garnison, il ne faut pas que ce soit nous encore qui soyons là à assurer. Parce qu'il y a des points sensibles dans la ville, l'ONE, ça, ce n'est pas à nous, militaires, nous les commandons. On ne doit pas s'occuper de ça. C'est la population qui doit. Ouais. C'est des tâches de second plan, comme ça. Voilà, qui sont. C'est ça. Donc, il ne peut pas y avoir de.
Et vous comptez l'élargir, l'armée, ou bien consolider?
Non, c'est consolider donc leur conscience, de renforcer leur conscience de classe, et puis former la formation généralisée du peuple.
Formation généralisée du
peuple.
Au-delà donc. Mmh.
Ah, d'accord. Militaire généralisé du peuple. Et peut-être, si ça marche, peut-être le service national.
Il y a beaucoup de soldats de carrière, comme on dit.
Actuellement, oui. Ouais, pratiquement l'armée, c'est la carrière, ceux qui sont dans les unités constituées.
C'est la plupart. Hein.
Ah, ouais, c'est la carrière.
Donc il faut en faire des révolutionnaires professionnels.
Voilà, c'est un instrument politique. Hein. L'armée a été un instrument politique au service des bourgeoisies, enfin des classes dominantes. Il faut aussi que l'armée soit un instrument politique au service du peuple. Ça, nous travaillons à cela.
Vous pensez que si danger il y a, je veux dire, s'il y a des forces qui essayent d'opposer, certainement il y en a, qui essaie de s'opposer à ce processus révolutionnaire, elles ne viendront pas de l'armée désormais. Malgré quelques récemment, on a entendu parler de quelques officiers qui
Vous savez, les forces, les réactions, ça peut venir de partout. Hein. On n'a pas de choses. L'ennemi peut utiliser, tant qu'elle peut utiliser l'armée, le clergé, tout ce qu'on veut. Donc pour nous, il faut être vigilant sur tout. Même nous savons qu'il y a un travail qui est fait pour permettre à l'armée de rester au service de son peuple. Ça,
et vous ne sentez pas particulièrement enfin, que dans l'armée il y ait vraiment des mécontentements ou de...
Oh, mais les mécontents par rapport aux autres, c'est minime, c'est ça, c'est négligeable. Mais ça, sûrement, ça fait des... Enfin, ça gêne quand même, quoi. Ça demande qu'il y ait des contents.
La gendarmerie dépend du ministère de la Défense ?
Oui.
Elle s'est intégrée dans...
Oui, il n'y a pas de problème, même ici, on avait des gendarmes. Ici,
ouais, on les a vus, oui.
Ils étaient à l'organisation comme les autres.
Il n'y a pas de conflits spéciaux.
Non.
Bon. Il y a eu un accident récemment.
Où ?
Ici.
Oui, oui. Ah ouais, effectivement, il y a eu au camp un accident parce que nous sommes... Vous savez, nous travaillons beaucoup avec les explosifs. Il y a eu dans une des soutes, là, les explosifs qu'on avait dedans qui ont... Puisque là,
tout seul.
L'enquête se poursuit, on ne sait pas. Puisque les soldats étaient pratiquement tous dehors. Après, la garde qui était là. C'était arrivé, c'était le jour. Parce que là, vraiment, c'est vraiment ce qui a bien pu se...
Vous n'avez pas su...
Non.
Quelles sont vos fonctions exactement au sein du gouvernement ?
ministre d'État délégué à la présidence de la République. C'est-à-dire que mon ministère, c'est la présidence. C'est un fonctionnaire de la présidence.
Oui, je vois. Vous voyagez beaucoup pour cela?
Non. De temps en temps, je sors en mission.
Pour aller voir, c'est surtout aller. Des fonctions antérieures.
Oui. Autrement, je m'occupe beaucoup plus du camp que de. J'ai des contacts avec le camarade président, on discute beaucoup. Ça va.
Ouais. On vous remercie.
Nous allons jouer au football.
Oui.
Mais, ils sont prêts.
Vous aussi?
Les judo, c'est quand? C'est après? C'est tout de suite.
Ça me rappelle Mohamed Maïga.